Pendant qu'ils descendent, je souhaitais la bienvenue à Giovanni. J'ai essayé de me souvenir de ton nom, mais je n'arrive pas. Je ne sais pas où sont les A et les O. Alors tu me pardonnes, Katana Loto. Ah, j'avais peur de te le manger un petit peu. Giovanni Katana Loto. Je pense que vous verrez par lui-même quel est un peu son travail dans la vie. C'est un petit peu marqué sur son cœur, là. On le repère facilement, c'est marqué Armée du Salut. Mais moi, je ne le connais pas, alors je ne vais pas le présenter. Si je ne le connais pas, il va se présenter lui-même, ça sera beaucoup plus simple. Et il veut nous apporter un message ce matin, on se réjouit de t'entendre. Donc, je te laisse la parole, sois le bienvenu.
Voilà, merci beaucoup. C'est sympa d'être accueilli dans une église ouverte. Pour un culte ouvert. Et puis, comme je suis nouveau ici, donc je ne savais pas si j'allais être coincé ou comment, puis j'ai vu qu'il y avait une liturgie ouverte. Waouh, c'était assez décontracté, hein, ça m'a fait du bien. Hein. Merci. Alors, je suis probablement le seul qui est là pour la première fois, n'est-ce pas? Je ne suis pas le seul. Ah ben vous êtes vraiment ouvert alors. Nous sommes nombreux à être là pour la première fois. Ah ben nous sommes quelques-uns là, super. Ben voilà, vous me permettez de me sentir en bonne compagnie. Merci beaucoup. Du coup, en fait, on a dit que je porte ça, donc je suis officier de l'Armée du Salut, mais je ne travaille plus comme officier de l'Armée du Salut. C'est assez bizarre ça. Hein. Quelques-uns connaissent l'Armée du Salut, savent qu'est-ce que c'est? Voilà, vous connaissez, hein? Ok. Bien, donc c'est une organisation qui est inspirée par la foi, donc une organisation chrétienne, et dont l'objectif c'est d'être proche des gens et de leur apporter. Dans l'idée du fondateur de l'Armée du Salut, c'était soupe, savon, salut. Alors quand j'ai dit ça en Valais pour la première fois, donc. Alors, on avait organisé un marché, on avait organisé même, pour rendre la chose bien visible et bien vivante, on avait organisé un chaudron avec une soupe, et puis on distribuait des savonnettes, et puis un évangile. Et puis le soir, il y a une dame qui me téléphone pour me dire, monsieur, il y avait mon numéro de téléphone là-dessus, puis elle me dit, monsieur, j'ai un truc à vous dire, vous savez, c'est un peu gênant, mais ma fille, elle a diarrhée. Je dis, bon, ben, et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et elle me dit, donc, non, c'est à cause de la soupe. Mettez moins de savon dans la soupe pour demain. Donc, ils n'avaient pas compris, en fait, que soupe, savon et salut, c'était nouveau pour eux. Et ça vous, en réalité, ça veut dire que l'évangile est là pour nous aider, pour répondre à nos besoins, qu'ils soient de type pratique, alimentaire, hein, du quotidien, soupe. Savon, que ce soit aussi de type relationnel. Le savon, quand même, rapproche. Hein. Vous avez déjà été à côté de quelqu'un qui sent un peu. Hein. Moi, j'ai toujours un petit truc avec moi, ces temps. D'ailleurs, je vais l'utiliser, on ne sait jamais. Pas que ceux qui sont en face de moi soient asphyxiés. Ça s'appelle Odol, hein, au cas où. Le savon rapproche, hein. C'est important d'avoir aussi des bonnes relations, n'est-ce pas? Soupe, savon, salut. À quoi ça nous sert d'avoir tout ce qu'il nous faut, d'avoir des bonnes relations si on est malheureux au fond de nous-mêmes? Et c'est ça donc les trois choses, soupe, savon, salut. Quelque chose qui nous ancre bien sur terre, peut-être plus que la soupe, hein. Seulement de la soupe ça irait pas non plus. Hein. Soupe, savon, quelque chose qui nous permet d'être bien en lien les uns avec les autres, mais aussi cette spiritualité qui nous relie à l'essentiel, qui nous relie au Créateur, qui nous relie les uns aux autres dans l'Église et qui nous permet de nous trouver bien. Voilà, soupe, savon, salut. Donc, j'ai rassuré la dame qu'il n'y avait pas de savon dans la soupe. Donc, elle pouvait revenir le lendemain. Voilà, j'aimerais juste vous dire que le thème qui va nous occuper pendant quelques minutes, c'est un thème que je n'ai pas reçu par les responsables de l'Église. Ils m'ont dit « tu es libre ». Du coup, j'étais un peu emprunté. Alors, je me suis dit « qu'est-ce que je cherche ?» J'ai cherché plein de trucs. Et puis, il m'est venu cette pensée « cherche d'abord Et puis voilà, c'était le chant qui a été chanté tout à l'heure. Et puis je me suis dit, tiens, on pourrait rester un instant sur les priorités pour bien vivre. Hein? Et du coup, je vais commencer par me présenter, dire deux mots sur qui je suis. Vous avez compris que j'ai travaillé à l'Armée du Salut. Aujourd'hui, je ne travaille plus à l'Armée du Salut, en tout cas pas en tant que salarié. Je suis psychothérapeute. Je travaille dans un cabinet psychiatrique et psychothérapeutique à Lausanne. Voilà donc mon travail. En même temps, j'ai été pasteur dans le cadre de l'Armée du Salut pendant 34 ans. Mon épouse continue d'exercer le ministère pastoral dans l'Armée du Salut de l'Arc Lémanique, la région de Lausanne, Morges-Renin. Elle était censée être là avec nous ce matin, mais j'ai eu un accident sur l'autoroute et je remercie Alfred qui est venu me chercher pour pouvoir être ici à l'heure. Donc c'était une négligence de ma part et j'ai abîmé la voiture. Et du coup, donc voilà, mon épouse n'a pas pu venir. Voilà, donc je vais vous dire que ça m'a toujours posé la question, mais pourquoi je suis devenu pasteur à un moment donné? Pourquoi je me suis intéressé à l'Église? Ça m'a travaillé. Et d'autant plus qu'après pas mal d'années d'avoir exercé ce service dans le Jura, suisse, Jura bernois, j'ai été appelé à créer une nouvelle communauté dans une région où il n'y avait pas de communauté de l'Armée du Salut, donc en Valais. Avec mon épouse, nous avons été envoyés là, et puis je me disais, mais il y a des églises sur place. Il y a l'église catholique, il y a des églises protestantes, il y a quelques églises évangéliques. Pourquoi nous, on doit aller là pour créer une nouvelle église de l'Armée du Salut? Et ça m'a beaucoup travaillé. Et nous avons réfléchi, nous avons prié, et je suis arrivé à me dire que nous avions cinq raisons pour pouvoir y aller. Et je vais vous dire un peu ces raisons-là. La chose qui m'a motivé à continuer dans ce projet, c'est que la foi chrétienne apporte un plus à la société. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Hein. Il y a longtemps des gens qui ont dit que la foi pouvait être un frein. Moi, je travaille en tant que psychothérapeute aujourd'hui, et je dois vous dire que dans la région de Lausanne, aussi à l'UNIL, dont on insiste sur le fait que la foi est une ressource fondamentale. Et que quand un patient qui vient en thérapie nous dit qu'il est croyant, on fait de tout pour savoir comment est sa foi et comment il peut s'en inspirer, comment il peut même l'approfondir pour que la foi lui apporte un bien maximal. Et ça, moi, je suis convaincu. Alors, du coup, quand on est arrivé en Valais, on s'est dit, je vous lis rapidement nos cinq objectifs qu'on avait avec mon épouse, c'est de mettre à la disposition du Valais un lieu de ressourcement. Et nous avons pensé que l'église devait être un lieu de ressourcement. Et quand j'ai vu aujourd'hui comment vous fonctionnez, comment vous êtes, je me suis dit, tiens, ça c'est peut-être vous aussi dans cette région. Peut-être vous êtes aussi un lieu de ressourcement. Et si c'est le cas, moi, je vous encourage à continuer, donc je trouve fantastique. Un lieu de ressourcement qui devrait être, à mon avis, convivial et propice, premièrement, à la découverte et à l'entretien d'une relation avec Dieu. Ça, c'est l'Église, hein, c'est le propre de l'Église. Deuxièmement, à établir des bonnes relations entre les hommes. Une Église qui ne se prend pas le temps d'établir des relations entre les hommes, je pense qu'elle est un peu bancale. Elle est accrochée au ciel, mais elle n'a pas les pieds par terre. Et puis, une église aussi, donc un centre ou un lieu d'accueil qui devrait être capable de nous aider et nous pousser à grandir vers une maturité spirituelle. Et puis, la quatrième chose, c'est un lieu où chacun peut mettre à disposition ses talents. J'ai vu, il y a des chanteurs, là, des musiciens, il y a des gens qui savent faire l'accueil, qui ont un sourire comme ça, une étiquette là, mais aussi une autre là, qui était très très jolie ce matin dans l'accueil. Et puis, je me suis senti bien en arrivant. Voilà, donc ça, découvrir les dons de chacun, les stimuler et encourager à les utiliser. Si vous pouvez, tous les membres de cette église et puis ceux qui viennent pour la première fois, vous engager dans quelque chose qui vous tient à cœur, dans quelque chose que vous savez faire, c'est fantastique. Parce que là, nous sommes utiles pour Dieu, nous sommes utiles pour le prochain et nous avons des satisfactions aussi personnelles. Et puis la cinquième chose, c'est que il me semblait que cet espace que nous on devait créer en Valais devait être utile aussi à la société et utile à soulager quelques souffrances de notre société ou de notre entourage. Sans se prendre la tête, on ne peut pas tout résoudre, mais quelque chose localement. Voilà, c'était ça qui nous a poussé. Et nous, dans un temps de prière, mon épouse et moi, nous avons dit, Seigneur, nous sommes prêts à y aller, mais à condition que cette conviction devienne vraiment profonde et puis qu'on reçoive une parole. Et la parole qu'on a reçue, c'est nous qui l'avons construite, hein, c'est nous qui avons réfléchi, nous avons cru que nous étions inspirés. Et cette parole, c'était, nous sommes convaincus que la foi en Jésus-Christ nous fait découvrir une spiritualité saine, nous aide à trouver un sens à la vie, nous encourage à devenir des citoyens plus respectueux et mieux engagés envers la famille, le prochain et la société, stimule à nous une plus grande joie de vivre déjà sur terre. Et puis moi, c'était important qu'il y ait ce mot-là, déjà sur terre. Le mot « déjà », pour moi, est extrêmement important. Des églises qui vivent déjà au ciel, il y en a tout plein. Mais il y a des églises qui veulent stimuler une plus grande joie déjà sur terre, il faut qu'il y en ait plus. Parce que celle du ciel, elle est assurée. Ça ne dépend pas de nous, on ne doit rien faire pour. Il suffit juste de fermer les yeux et de se retrouver de l'autre côté. Et en attendant ici, nous avons aussi un travail. Et ce travail est fantastique. Et nous pouvons y entrer. Voilà, ça c'était les idées qui nous ont accompagnés. Et la dernière idée, c'était que la foi en Jésus-Christ nous donne confiance dans le présent et dans l'avenir, mais aussi de l'espoir pour l'au-delà. Confiance dans le présent et dans l'avenir, et de l'espoir pour l'au-delà. Du coup, on avait décidé qu'on arrêterait de parler des choses qui vont mal, on arrêterait de parler du péché, non pas que c'est mal de parler du péché, parce qu'on était convaincus que les gens allaient nous parler de leur péché, et que les gens allaient confesser leur péché, que nous, on n'avait pas besoin de le faire. Et c'est ce qui s'est passé. On a arrêté de parler des choses qui vont mal, et les gens sont venus nous porter toute leur douleur et leur fardeau. On a arrêté de dire quels sont les péchés, et les gens sont venus confesser leurs péchés pour en être délivrés. Et puis on s'est dit, on pensait faire bien, mais on a fait un peu faux avant. On avait essayé de convaincre les gens qui faisaient faux, que la société allait mal, mais tout le monde le sait. On n'a pas besoin d'insister là-dessus. Par contre, ce qu'on avait besoin de dire, c'est qu'il y a des solutions. Et la foi en Jésus-Christ nous apporte une réponse, tant au péché qu'au malheur de notre société. Et nous devons passer plus de temps à parler de ce que la foi permet de vivre que de ce que, sans la foi, les gens vivent. Mais ils le savent déjà. C'est important que nous passions du temps à dire en quoi la foi nous aide. Donc, si vous voulez, je vais vous lire là un verset, on peut le lire ensemble, vous pouvez le lire dans votre Bible, mais je crois qu'il va être projeté, un passage dans Matthieu 22, versets 36 à 39. Quelqu'un pose la question à Jésus, vous connaissez ce passage, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. » Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà donc un passage que nous connaissons. Dommage que quels sont les deux plus grands commandements. Ça aurait été intéressant de poser quels sont les trois plus grands commandements ou les quatre plus grands commandements. Et moi, je me suis mis à réfléchir à ça et je me suis dit que le troisième commandement le plus grand, certainement dans la bouche de Jésus, aurait commencé par « Tu aimeras ». Et puis le quatrième commandement le plus grand aurait commencé, vous savez, par quoi ? Tu aimeras. Et puis le cinquième ? Tu aimeras. Ben oui. En fait, chaque pays a sa constitution. Hein. La France a une constitution, n'est-ce pas ? Ouais. La Suisse en a plusieurs. Hein, parce qu'il y a des constitutions cantonales. Hein. Mais vous avez la chance d'avoir une constitution. Et vous savez, dans le royaume de Dieu, il y a aussi une constitution. Et la constitution du royaume de Dieu, c'est la loi de l'amour. C'est pourquoi Jésus nous rappelle ce que dans l'Ancien Testament a été déjà dit. La base de tout, c'est pas ce que tu dois faire ou ce que tu dois pas faire. La base de tout, c'est de vivre dans l'amour. Et si tu vis dans l'amour, tu sais déjà automatiquement ce que tu dois faire et ce que tu dois écarter. C'est clair. Le reste, ce sont des commentaires. Mais la constitution, elle est là. Toutes les lois qui sont faites par un pays sont une explication de la constitution. Et la constitution, pour le croyant, c'est l'amour. C'est pour ça, donc j'aimerais lire avec vous ce passage de Matthieu 6, 33, qui est dit, où il est dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus ou par-dessus. » Lisez le passage en entier, si vous le lisez depuis le verset 14 au verset 34, vous verrez que ce passage est d'une actualité fantastique. Parce qu'on nous parle des soucis, et nous connaissons les soucis, nous parle de chômage, et nous connaissons le chômage, nous parle de problèmes de santé, et nous connaissons ça, nous parle d'envie de vivre plus longtemps, et nous connaissons ça. Et nous parle de ce passage, et le passage nous dit que Dieu désire nous donner ces choses, Dieu désire répondre à notre envie de vivre. Mais permettez-moi de décliner juste cette parole. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Mais si on s'arrêtait sur chaque mot. Le premier mot, par exemple, moi j'ai décrit ce passage comme la priorité pour bien vivre. Donc chercher d'abord, c'est trouver la priorité pour bien vivre. Rechercher. Le mot rechercher, je ne sais pas à quoi vous pensez quand on vous entendez ce mot. Vous savez, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à un bébé. Vous avez déjà vu un bébé à peine né? Moi, j'en ai vu trois, ils sont grands maintenant. Hein. Et puis, j'ai trois petits-enfants. Mais la première chose que mes enfants, à la naissance, ont fait, ils ont cherché le sein de maman. C'est incroyable, hein? Mais c'est vrai, ben, tous les mammifères, hein, ils cherchent et ils trouvent. Hein. Je me demande comment ils font. Chercher, c'est quelque chose d'inné. Nous avons besoin de chercher. Le sein maternel, l'affection, la nourriture, plus tard, imiter, copier, pour se tenir debout, tous ces efforts. Hein? Mais pour se autonomiser, devenir autonome, pouvoir compter sur ses forces un peu, chercher un partenaire de vie, chercher un métier, chercher à se faire une famille. Et puis, combien d'autres choses on cherche, hein? Nous cherchons. Nous sommes faits pour chercher. Et rechercher, c'est ce qui nous anime. Vous arrêtez de chercher, vous êtes mort. Nous ne pouvons pas vivre sans chercher. Chercher, c'est vraiment notre nature. Et la Bible nous dit, mais c'est clair que dans les recherches, on peut se perdre parce qu'on peut chercher midi à 14 heures. On peut tout chercher, se perdre totalement. Et Jésus dit, cherchez d'abord. Et là vient cette parole, d'abord. D'abord, ça veut dire, quelles sont tes priorités aujourd'hui? Si on faisait un petit exercice, si on s'arrêtait un instant et on faisait juste là, comme ça, ah ben voilà, donc je vends. Quelqu'un peut-être se dit, mais je cherche à partir d'ici parce que je suis en train de m'ennuyer. Hein? Très bien, ok, c'est possible. Et en fait, quand on se prend du temps, ben d'abord, il y a des choses qui viennent. Hein? Il y a des choses qui viennent. Accueillons ce qui se passe à nous. Et en plus, Jésus nous dit qu'en plus de ces choses qui nous sont naturelles, qu'on ne peut pas contrôler, hein? On chercherait un lit si on est fatigué. On chercherait à s'assoupir un peu. Ou moi, je me rappelle quand j'étais en Suisse au début, et je suis d'origine italienne, je ne comprenais pas le français. Ce que je faisais, j'étais dans une salle de cours, je cherchais toujours une tête plus grosse que la mienne, devant moi, pour me cacher pendant que je dormais. Je ne comprenais rien. Donc, c'était tellement spontané, comme ça. Chercher, on cherche des choses qui nous sont naturelles, et Jésus vient nous dire, par-dessus ça, il y a des choses qui sont essentielles. Et ces choses-là, on ne devrait pas les louper. Cherchez ce qui est essentiel. Et Jésus le dit, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Ça nous prendrait trop de temps pour parler du royaume de Dieu et de sa justice. Moi, je veux m'arrêter juste sur le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, mais qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? Peut-être qu'on pourrait lire un verset qui nous l'explique. Luc 17, 21, Jésus dit, « Le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Alors, c'est quoi ce royaume? C'est l'endroit où règne la loi de Dieu, le royaume de Dieu. Le royaume de France, ça n'existe plus, hein, c'est la République française. C'est l'endroit où règne la Constitution française. Voilà, et le royaume de Dieu, c'est l'endroit où règne la loi de Dieu. Et cette loi de Dieu que la Bible nous dit qui est inscrite dans nos cœurs. C'est-à-dire, ce sont nos inspirations qui sont touchées par ce que nous avons compris de la volonté de Dieu, du désir de Dieu au travers de la Bible. Voilà, c'est Jésus qui l'a dit, hein. Là où il y a ton cœur, là il y a aussi ton trésor. Hein. Ou là où il y a ton trésor, là où il y a aussi ton cœur. Hein. En fait, le royaume de Dieu est au cœur de la vie. Jésus a dit, regardez bien cette parole, que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Quand on pense au milieu, on pourrait se dire, ben voilà, il est là quelque part, au milieu. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans la Bible, ce mot « au milieu », c'est une traduction en français du grec. Pour ceux d'entre vous qui ont fait du grec et qui savent, le mot qui est là, c'est « entos », qui veut dire « à l'intérieur de ». Ça veut dire « n'allez pas le chercher à droite et à gauche ». Ne cherchez vraiment pas à midi à 14h. Le royaume de Dieu, il n'est pas à l'extérieur. Le royaume de Dieu, soit il est à l'intérieur de nous, soit il n'est pas. Soit le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous, soit il n'est pas. Il est à l'intérieur de nous. Alors, qu'est-ce que c'est ce royaume de Dieu? C'est l'endroit où règne la constitution de Dieu. Et la constitution de Dieu, hein, ce qui constitue la loi de Dieu, vous vous rappelez qu'est-ce que c'est? C'est l'amour. Hein. Premier commandement, aime. Deuxième commandement, aime. Troisième commandement, quatrième, et ainsi de suite. Alors en fait, quand notre cœur est touché par l'amour de Dieu, et quand dans notre cœur nous sommes prêts à nous laisser influencer ou inspirer, ce serait encore mieux, par cet amour, à tel point que nous aussi nous devenons des êtres aimants, alors là, le royaume de Dieu est présent. N'allez pas le chercher ailleurs. Il y est, ça y est. Et le texte continue, et Jésus dit, et tout cela vous sera donné en plus. En plus, ou par-dessus. En fait, ça me fait penser à moi, un magnifique repas qui se termine avec une cerise sur un gâteau. Moi, je préfère le bon repas, et puis la cerise à la fin. Puis s'il n'y a pas la cerise, enfin, tant pis. Mais j'étais bien nourri. Vous voyez? En fait, le Christ nous dit, si nous nous concentrons sur tout le bien que notre société voudrait nous donner, si nous nous mettons à chercher que le bien-être et le confort, tel que notre société semble nous dire qu'il est essentiel, nous finissons par nous contenter de la cerise sur le gâteau. Tandis que Dieu veut que nous ayons un repas complet. Et parfois, nous avons droit à des cerises. Parfois, ça se donne. Et nous pouvons apprécier les cerises. Voilà. Du coup, ça veut dire, c'est une invitation, chercher d'abord le royaume de Dieu. C'est une invitation à se concentrer sur l'amour. Donc, concentre-toi sur l'amour, sur les règles principales du royaume de Dieu. Et lorsque tu te concentres sur l'amour envers Dieu, envers ton prochain, mais aussi envers toi-même, et que tu es même prêt à sentir quand tu es ennuyé par rapport à moi, et dire celui-ci quand il arrête, hein, c'est bienvenu aussi. Hein. Quand tu peux te concentrer sur l'amour pour Dieu, pour ton prochain et pour le respect pour toi, eh bien, premièrement, je pense, tu accomplis le sens de ta vie. Concentre-toi sur l'amour et tu es vraiment sur cette route du sens de ta vie. On pourrait même aller un peu plus loin et on dit, et dire, si tu te concentres sur l'amour, tu te rends disponible pour l'essentiel. Du coup, tu t'inquiètes pas si la souris est là, si la cerise est là ou pas. Tu es pour l'essentiel. Tu nourris ta vie et tu es un élément de bénédiction et de nourriture pour ton entourage. Ta vie prend du sens. En fait, tu peux apprécier en passant les cerises quand même. Hein. Ce n'est pas un problème de les apprécier. Au contraire. Oui. J'aimerais conclure tout ça en disant que, en vous donnant trois clés issues de tout ce qu'on vient de dire. Trois clés que j'espère qu'ils soient pratiques et qui vous aident, nous aident à entrer dans une recherche fructueuse. Que nos recherches ne soient pas une recherche fatigante, tous azimuts, qui nous fait courir un peu partout, mais orientée vers l'essentiel. Et puis, dans ces trois clés, je dirais que la première, c'est quand tu cherches, est-ce que ce que tu cherches est en accord avec tes valeurs? Ça, c'est la première chose. Si ce que tu cherches est en accord avec tes valeurs spirituelles, avec les valeurs de foi, c'est que tu es en train de respecter le premier commandement. Tu es en train d'aimer Dieu et tu es en train de faire les bons choix. Le bon choix, ce n'est pas ce que te disent l'ancien ou le responsable de jeunesse. Le bon choix, ce n'est pas celui qui te dit ton père ou ta mère. Le bon choix, ce n'est pas celui qui te dit ton employeur ou un autre. Le bon choix, c'est quand ça respecte tes valeurs les plus intimes et les valeurs de ta foi en font partie. Là, tu sais que tu es en train d'aimer. Quand tes choix respectent ça, là, tu sais que tu vas dans la bonne direction. C'est la première clé. La deuxième clé, c'est est-ce que ce que je désire, est-ce que c'est bon pour mes proches? Est-ce que c'est bon pour mon environnement et peut-être même pour l'environnement en général? Est-ce que ce que je cherche est bon pour mes proches et pour mon environnement? À ce moment-là, si la réponse est oui, c'est que tu sais que tu peux continuer. Tu es bien encore bien inspiré. Tu es en train d'aimer ton prochain. Et tu es encore en train de... Tout ce que tu vas choisir, toutes les choses que tu mets en place respectent la constitution de la loi de Dieu. Et puis, on pourrait aller plus loin et trouver comme troisième clé, est-ce que ce que je cherche, ce que je désire, est-ce qu'il est bon pour moi? Oui, c'est aussi important. Moi, j'ai entendu des croyants qui me disaient, le groupe de jeunes m'a dit, le responsable du groupe de jeunes m'a dit que je devais me marier avec un tel. Et puis toi, tu l'aimes? Non. Et puis, oui, on a la date de mariage dans 3 semaines. C'est pas une blague, hein? C'est pas une blague. Ça vous fait rire. Ça me rassure. Enfin, ça fait pleurer, en fait. Hein. Et cette personne n'avait pas compris que ça ne suffit pas que ça réponde aux deux premières questions. Est-ce que c'est un accord avec mes valeurs de foi? Oui, se marier, c'était un accord avec ses valeurs de foi. Est-ce que c'est bon pour mes proches et mon environnement? Oui, c'est un bon projet pour la vie. Mais est-ce que c'est bon pour toi? Non, ce gars ne me convient pas. Et cette question, elle n'avait pas répondu. Et là, donc 3 semaines avant son mariage, et elle a pris la décision, en prenant conscience que ça n'allait pas, d'écrire une lettre à tous les invités, d'annuler la fête, de payer pour le bistrot et pour tout ce, enfin, la salle réservée, et puis une partie des frais ne pouvait plus être retirée. Mais elle a fait son choix. Elle s'est respectée. Mais voilà, donc, ces trois clés nous aident de manière concrète. Vous pouvez les appliquer à vos histoires. Hein. J'ai dit exprès quelque chose qui est un peu gros, hein. Un peu grossier presque, mais qui paraît grotesque. Mais finalement, dans nos choix, dans nos recherches, des fois ces choses un peu, un peu, un peu étrange, nous aide à mieux voir. Comment je m'aligne sur ce qui est fondamental pour moi? Cette loi de l'amour qui implique l'amour pour Dieu, l'amour pour mon prochain et l'amour aussi pour moi-même. Dieu a des bons projets pour nous. Et dans ce sens, oui, je pense que chercher en mettant des priorités, ça nous aide, ces priorités nous aident à bien vivre. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous aide. Merci d'avoir écouté si patiemment.
Merci pour ce qui a été partagé ce matin, pour ce qu'on a reçu. Je vous invite à prier peut-être suite à ce qu'on a entendu. Oui Seigneur, merci parce que tu es la vie. Merci parce que ton royaume est bon. Merci parce que tu nous encourages à le rechercher. C'est vrai, c'est ce que nous voulons faire ce matin, chacun de façon individuelle. Nous voulons te rechercher. Merci parce que tu as tout accompli. Merci parce que nous n'avons qu'à saisir ce que tu as préparé pour nous. Sois loué, sois béni Seigneur pour tout ton amour et parce que tu désires le partager avec le plus grand nombre. Amen. Je partage avec vous les annonces. Après le culte, on a normalement un apéritif. Je ne sais pas si c'est confirmé, ouais. Donc je pense qu'on le fera en haut, ou bien, hein, ouais. Donc voilà, on aura un apéritif après le culte, ici dans cette salle. Donc ne partez pas trop vite. Prenez encore du temps pour partager, pour prendre du bon temps ensemble. Mardi, on a donc les cellules. La cellule de Gex va se retrouver chez nous. La cellule de Prefsin, une fois n'est pas coutume, chez Philippe et Nelly. Et la cellule de Collonges, Farge et Perron chez Pierre et Déborah. Jeudi, on aura la chorale. Alors, je l'ai dit juste parce qu'il y a plein de projets intéressants pour la chorale. J'en dis pas plus. À jeudi pour ceux qui participent. Je vous rappelle donc les conférences pour femmes à Avusy. Il y a les informations au fond de la salle. Donc, le samedi 25 février. Et puis, mardi dans une semaine, donc il y aura l'étude biblique pour les aînés. Pensons à ceux qui ont des soucis de santé, à ceux qui souffrent aussi dans leur corps, pour les accompagner, pour être avec eux, pour leur manifester aussi notre amour. On a parlé d'amour ce matin, et ça se manifeste aussi de façon toute concrète à ceux qui passent par des moments plus difficiles. Pensons aussi à Fernande, qui est parmi nous, qui a déménagé, qui est donc dans la résidence du Jura. Voilà, on veut penser à toi, Fernande. C'est une étape de ta vie. Que Dieu t'accompagne, qu'il te renouvelle et te bénisse. C'est avec tristesse aussi que nous vous faisons part du décès de Ruth Zbinden. Ruth est décédée vendredi passé, vendredi 10, à 4h du matin, paisiblement, entourée de sa famille, à la maison de retraite d'Ornée. Nos pensées vont à ses enfants, petits et arrière-petits-enfants, tout particulièrement à Michel, Hélène, Johanna, Franck, Elia, Kimi et Marie. L'enterrement aura lieu vendredi prochain, donc le 17, à 11h tout d'abord au cimetière de Collonges, et puis une cérémonie aura lieu à 15h en l'église de Crosswood, à Ferney-Voltaire, donc 15h à Ferney-Voltaire, à Crosswood. Que notre Dieu console la famille, vous console, avec l'espérance qu'il nous donne, espérance qui ne trompe pas, qui est réelle. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié dans les annonces à partager. Je vous invite à vous lever. Je vous lis encore un verset d'un psaume, psaume 13, le verset 6. « Moi j'ai confiance en ta bonté. » J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel parce qu'il m'a fait du bien. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.